Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien, belle coïncidence, je reçois un écrivain, un professeur de littérature qui ne s'appelle rien de moins qu'Alain Fara, qui est connu parmi nous, mais c'est drôle, on va pouvoir se parler de Fara à Fara. On le reçoit pour son roman qui s'appelle « Mille secrets, mille dangers ». Et suite après son entrevue, bien, nous aurons le plaisir d'avoir Noémie Chélariou, autrice, compositrice, interprète. Alors certains d'entre vous la connaissent beaucoup, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chroniqueuse qui est chez elle, c'est une musicienne, elle écoute l'entrevue que je vais avoir avec Alain Fara, et suite à cette entrevue, elle va créer une chanson dont nous parlons ensemble dans la deuxième partie de l'émission. Donc restez avec nous, ça va être passionnant comme d'habitude. Mais pour l'instant, nous partons avec Alex Nevsky qui nous chante « Mille raisons ». Now I found a reason to keep on. Alors, cette fois, on a notre invité, Alain Fara, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, j'ai besoin de vous un long moment quand même, Alain. Vous allez pouvoir rester avec moi?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Parce que je vais avoir un bon 20 minutes d'entrevue avec vous et après, j'ai une surprise pour vous. Alors, j'aurais aimé que vous restiez un petit peu.
Oui, ben, je vais rester, mais si on s'entend, on va négocier un peu, mais... C'est que mes étudiants à McGill ne seront pas trop contents si je passe toute l'heure avec vous, mais 20 minutes, ça va aller.
Ah, ça va être un petit peu plus pour la surprise, mais sinon, on vous l'enverra, c'est pas grave. Donc, d'abord, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
Ça me fait
bonjour.
Drôle de dire bonjour à une autre personne qui s'appelle Fara.
Mais moi, ça me fait très drôle. C'est la première fois de ma vie que je donne une entrevue à une Farah. Donc, il va falloir qu'ailleurs, vous m'expliquiez
d'où ça vient.
Comment ça se fait que, quoi que vous avez vu que c'est un roman où je m'appelle pas tout à fait Farah non
oui,
plus.
Oui, oui, mais c'est ça qui m'a fait sourire. D'abord, il faut vous dire que votre roman, il m'a fait valser entre drame et rire. Alors, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, sur le nom, moi, on m'a dit à moi que le nom de Farah en arabe voulait dire joie.
Oui, oui.
Alors.
Mais vous, la graphie, sans le H.
Moi, sans le H.
Oui, c'est ça.
Mais peut-être, peut-être qu'on l'a perdu au cours des siècles, hein, aussi, il faut dire.
C'est ça. Mais en fait, il y a souvent trois occurrences de ce patronyme-là. Donc, Farah, donc comme moi je l'écris, donc tu veux vraiment dire la joie ou le mariage. Donc Farhat, dont j'ignore le sens, mais qui souvent au Québec le réfère à la famille d'opticiens. Et puis Farah comme vous, donc sans le H, qui veut dire je pense souris. Donc, comme une petite souris. Oui. Donc, c'est ma compréhension de l'arabe.
Je vais me dépêcher de rajouter un H à mon nom, si j'y ai pas droit.
Oui.
Ça sera mieux comme ça. Alors, on va parler un petit peu de ce roman. D'abord, comment est venue l'idée de commencer ce roman par le jour de votre mariage?
Ben c'est pas seulement de commencer, hein, c'est presque de finir aussi. Hein,
oui.
Donc c'est vraiment
c'est une totale.
Oui, c'est ça. Donc c'est l'idée de vraiment faire un roman qui se passe en une journée. Donc et puis c'est une idée qui m'est venue au cours de réflexion, de discussion, mais qui est notamment aussi une inspiration qui vient du Ulysse de James Joyce. Donc, j'avais envie de me lancer ce défi-là, donc de faire l'histoire d'un Montréalais, donc plutôt que d'un Dublinois, donc qui passait une journée à Montréal. Et de ce point de vue-là, il me semblait que la journée du mariage était toute désignée, étant donné que c'est une journée qui condense toutes sortes d'émotions, d'histoires. Et comme mon patronyme veut dire Farah, et comme j'aime beaucoup le parrain de Coppola qui commence par un mariage, et comme effectivement la journée de mon mariage est assez
C'est assez épique parce que là vous partez, vous racontez alors l'histoire de votre papa, votre un petit peu de votre enfance, votre fameux cousin qui est quand même une figure extrêmement importante de cette histoire.
Absolument.
Il faut le reconnaître, votre femme évidemment, et puis tout ça. Mais alors partons de certains exemples, un exemple qui m'a amusé, puis un exemple que j'ai trouvé un petit peu plus dramatique, mais dont j'aimerais en parler avec vous. Alors l'exemple qui m'a amusé, moi, mais ça ne vous a peut-être pas amusé vous, si ça s'est passé comme ça le jour de votre mariage, c'est lorsque votre maman arrive avec un papier disant que vous vous appelez autrement qu'Alain.
Oui, oui, oui.
Excusez-moi, mais moi, ça m'a fait rire, oui.
Oui, ben c'est ça, mais c'est assez drôle, en fait, ce qui s'est passé dans la vie, puis la manière dont c'est placé dans le roman. C'est un moment important pour moi parce que c'est le moment où, finalement, donc pour vos auditrices, vos auditeurs qui ont peut-être pas lu le roman, donc c'est le moment où le protagoniste, donc qui porte mon nom, Alain Farah, se rend compte qu'il a en fait un nom de baptême qui est beaucoup plus arabe en fait que son nom à lui. Puis oui, aussi pour le bénéfice de votre public, c'est-à-dire que c'est souvent un sorte de binôme qu'on retrouve chez les chrétiens du Moyen-Orient, c'est-à-dire un prénom très français et puis un patronyme plutôt arabe. Alors le personnage se rend compte qu'il s'appelle pas du tout Alain Farah, qui s'appelle plutôt Youssef Charbel, donc qu'il a Youssef Charbel comme prénom, et ça le met face à son arabité dont il a avec laquelle il a une relation quand même conflictuelle, donc du fait qu'il cherche à s'assimiler à la société québécoise. Donc c'est un moment, oui, qui est comique, mais c'est un moment aussi qui
est intense.
Oui, c'est ça, mais qui a une densité aussi du point de vue identitaire, et puis qui parle de toute cette cette difficulté ou de cette complexité qui consiste à être un fils, une fille des migrants, des migrantes.
Parce que vous en parlez beaucoup de l'identité à travers l'histoire de la famille, mais est-ce que c'est quelque chose qui est venu vous chercher quand vous étiez enfant ou plus tard dans votre vie? Parce que vous le racontez dans le livre aussi. Mm-hmm. Vous avez été touché un petit peu plus tard que les autres. Vous n'en êtes pas rendu compte immédiatement.
Ben, c'est ça. C'est dans le fond, le fait que j'ai fréquenté, donc dans les premières années de ma scolarisation, des écoles où il y avait beaucoup de fils et de filles d'immigrants, c'était pour moi peut-être évident qu'il y avait toutes sortes de gens qui venaient de toutes sortes de pays différents, mais comme l'entrée au secondaire a été une espèce de choc, parce que je me suis rendu compte, en fait, j'étais plus près de la culture majoritaire, donc francophone, québécoise, donc canadienne, française, et là, pour le coup, j'avais envie de, comme souvent les adolescents, d'appartenir à cette majorité. Donc les questions se sont posées plutôt à ce moment-là. Et dans le livre, j'ai mis en scène un peu le même conflit, si on veut, de loyauté pour le protagoniste, c'est-à-dire qu'il est face à une certaine honte de ne pas pouvoir justement appartenir à cette majorité et va justement décider de faire la part, de faire impasse en fait sur cette partie de lui qui associe beaucoup à ses parents et puis à leurs origines pour se fondre, si on veut, dans cette majorité.
Alors, vous dites que c'est plus quand vous êtes adolescent, quand vous changez d'école, que là, vous vous rendez compte qu'on vous fait remarquer vos cheveux frisés. Voilà, des choses qui... pour lesquels vous n'aviez pas vu de différence jusqu'à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Donc la machine romanesque, en fait, me permet de créer une dramaturgie autour du fait de identitairement être, si on veut, en conflit avec soi-même, avec l'image de soi. Et puis, c'est représenté effectivement par des traits comme ça qui sont associés à une différence du modèle, si on veut, du modèle majoritaire, donc autour des cheveux, mais aussi autour des habits, autour de la mode, autour de l'attitude, tout ça. Donc pour moi, c'était important de mettre en scène par des exemples comme ça cette espèce d'inadéquation tout d'un coup qui est ressentie par le protagoniste.
Oui, parce que souvent, quand on vous voit, enfin, le personnage, en tout cas, devient un enfant timide et plutôt malhabile à exprimer ses sentiments.
Dans le roman?
Dans le roman, tel que je le ressens au départ, quand on raconte des histoires d'enfance, où je me dis, l'écriture est là, et pourtant... Je pense au lien avec aux difficultés avec son ami d'enfance qui est aussi son premier amour. Tout ce qui se passe dans ces moments-là fait que il est comme enfermé dans quelque chose qu'il n'arrive pas à traverser, enfin qu'il n'arrive pas à dire.
Ouais, puis qui est de l'ordre d'une colère, qui est de l'ordre d'une honte, qui mélange toutes sortes d'émotions un peu informes. Mais qui se manifeste aussi par de la souffrance, je dirais. Et puis, c'est cette souffrance qui accompagne le personnage dans les premières années de sa jeunesse, de son adolescence.
Alors, je ne sais pas où est le vrai, où est le faux, mais en tout cas, dans le roman tel que vous le racontez, le personnage a l'air de se faire plus de mal tout seul qu'il n'en reçoit des autres, parce qu'il n'a pas l'air d'en recevoir des autres. Spécialement.
Ouais. Mais ça, je trouve ça intéressant ce que vous le nommiez de cette manière-là, parce que c'est quelque chose qui est une découverte, en fait, qui se passe presque en temps réel pour le narrateur du livre. C'est-à-dire qu'il a d'abord l'idée ou peut-être l'impression d'être l'objet d'une sorte de malédiction, donc du mauvais œil, d'une sorte de guigne ou de calamité là, qui s'achante sur lui, mais ça lui prend beaucoup de temps pour arriver à la conclusion que vous énoncez, en fait, que dans le fond, lui-même est l'artisan jusqu'à un certain point de son propre malheur du fait d'être d'être un peu submergé par tout ce qui se passe et puis d'avoir l'impression que le monde s'acharne sur lui. Alors que... Mais on n'est pas capable, hein, donc, pris oui. dans un tourment
ah bah oui,
comme ça.
Je comprends bien que quand on a dans la tête, quand on s'imagine des choses, elles sont là et rien ne peut nous en défaire. Ça, j'en suis complètement consciente. on a tous vécu ça. Ou alors, ceux qui ne veulent pas le reconnaître, c'est que c'est grave, docteur. Mais l'autre scène qui m'a... Et beaucoup de scènes qui m'ont touchée, mais qui m'a beaucoup touchée, c'est celle... où vous avez un accident avec votre dent, c'est le jour du mariage, vous allez vite chez un dentiste, un ami de la famille, pour pouvoir vous faire réparer votre dent afin d'être impeccable ce jour-là. Et oui. là, il y a une discussion, une scène qui est chez Wally Wally, donc le dentiste, où là, c'est assez impressionnant le racisme qui s'en dégage, si je puis employer les mots comme tel.
Oui, oui. Ben, c'est une scène qui pour moi, c'est une scène à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai trouvé dur à écrire, mais qui me semblait importante, en fait, à décrire, parce que, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, en dépit du contexte là, qui est lié, comme vous dites, à un accident là, et qui nécessite une intervention tellement rapide que on s'en réfère aux gens qu'on connaît, tout ça, bien, le dispositif est mis en place de manière à ce qu'on puisse en fait avoir accès à une autre forme de racisme que celle qui est explorée depuis le début du livre. C'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la honte de soi et puis la volonté de correspondre à la majorité, donc qui est une sorte de souffrance qui est vécue par le protagoniste à son entrée dans l'adolescence. Donc ça, c'est une première, si on veut, illustration d'un racisme et qu'on se fait subir à soi-même, hein, d'une honte de soi, je dirais. Je devais aussi montrer, en fait, le racisme qui, comment je pourrais dire, participe de l'identité de certaines communautés. Et puis, quand, justement, ce personnage de Wally Wally, justement, prétend qu'il n'est pas un arabe, prétend qu'il est très inquiet, en fait, du fait qu'il y ait de plus en plus d'Arabes au Québec, etc. C'était pour moi une manière de montrer ironiquement comment ces questions-là sont complexes, en fait, et puis qu'il y a des gens qui logent à toutes sortes d'enseignes. Et donc, j'avais envie de faire entendre non seulement cette haine, hein, qui existe, malheureusement, mais aussi l'apathie du personnage face à cette haine, face à ce racisme, et aussi l'apathie du personnage du père. Il se sent coupable, hein, le protagoniste, de ne pas avoir été capable de répondre. Et le père lui dit, mais qu'est-ce que ça t'aurait donné?
Oui, c'est ça. Moi, je suis dans cette histoire-là. Moi, en me mettant dedans, en étant passionné par l'histoire, je trouvais le père raisonnable, dans le sens où je comprends qu'il avait plein de choses qu'il a traversées, puis qu'il essayait de donner au héros du roman le meilleur, à son fils le meilleur, mais en même temps calmer la colère de quelqu'un qui tourne en boucle, ça sert à quoi de répondre? Ça ne fait que monter la tension en deux mots, et ça ne fait qu'enjoliver la dispute.
Mais c'est ça, c'est là qu'il y a une sagesse qui est intéressante chez le père à ce moment-là,
oui.
Mais qui, en même temps, du point de vue du narrateur, du fils, puis du point de vue surtout du narrateur adulte qui écrit l'histoire et puis de l'écrivain derrière qui s'adonne à être moi, c'est là que c'est, je trouve, un jeu dangereux, en fait. Parce que c'est quand même de laisser la haine exister en toute impunité. Et donc, c'est un peu ce qu'essaye de nommer cette scène-là, c'est-à-dire, dans le temps réel de la narration en 2007, il n'y a pas de réaction, mais depuis le temps de l'écriture, il y a une perspective là-dessus qui change un peu en disant, est-ce que j'ai fait la bonne chose, en fait, en laissant cette haine-là être déversée? Donc c'est là que je m'adresse à mes contemporains, mes contemporaines en 2021.
Mais en même temps, chez chaque être humain, alors racisme, autre chose, ça peut être d'autres sujets. Quand on a face à soi quelqu'un qui est fermé puis qui déverse comme un torrent de haine, on en voit avec Internet des tas de choses qui passent. On peut aussi se dire qu'il y a un moment pour tout. Quand la parole bienfaisante ou calme ne peut pas pénétrer l'esprit de l'autre, à quoi ça sert dans l'instant de parler? C'est peut-être plutôt, alors à ce moment-là, ce qui vaut mieux, c'est d'acter des choses pour le faire changer ou lui faire comprendre. Parce que dans l'instant T, tel que vous l'écrivez, moi personnellement, je ne vois pas d'autre solution que celle que le père a pris. Voilà.
C'est ça la fiction, c'est de laisser planer en fait une certaine tension autour de cet événement-là qui vous fait méditer, puis avoir ces réflexions-là qui me semblent pertinentes et intéressantes. Après, c'est ça, c'est que moi, comme je vous dis, je m'adresse à mes contemporains, c'est-à-dire, et vous, en fait, vous feriez quoi, en fait, parce que effectivement, donc, oui, c'est avéré, et puis c'est l'époque, hein, vous savez, c'est 2007, c'est des accommodements raisonnables, tout ça, donc c'est historiquement quelque chose d'avéré, mais on est encore là-dedans, sinon plus, et puis, ben, c'est ça, j'invite à une réflexion sur comment on se place par rapport à la haine, en fait.
Oui.
Et puis, ce que j'avais envie aussi de faire entendre, c'est comment la haine, elle est partout. Donc, elle n'est pas, malheureusement, elle n'est pas le monopole de certaines communautés. Et je pense que c'est quelque chose chez l'être humain qui travaille, hein, la peur de l'autre, et puis qui produit ces passions si tristes. Mais c'est un peu tout ça que j'essayais de faire avec cette scène.
En tout cas, elle est réussie. Moi, au départ, je vous avoue, Alain, que j'ai regardé le nombre de pages, j'ai fait « waouh !» C'est un gros pavé. Mais
ouais.
Je l'ai lu tellement facilement. Alors, merci pour ça.
J'entends ça beaucoup de la part des lectrices, des lecteurs. Puis je suis content parce que c'était un peu ça mon objectif, c'est-à-dire d'arriver à vraiment proposer une aventure assez consistante, mais que le plaisir, en fait, ne démorde pas. Donc, je suis bien content que vous l'ayez reçu comme ça.
Ben parce qu'en fait, je me suis intéressée à l'histoire. Quand vous partez sur l'histoire de votre père, son enfance, comment il a vécu, je trouvais ça passionnant. Revenir sur le mariage, après, il y avait des choses où j'étais avec vous, j'avais mal avec vous, où je souffrais avec vous. Mais en même temps, tous ces personnages sont lumineux. Je me suis attachée à tous ces personnages, il faut le dire.
Je suis très content, merci à votre
ami aussi qui vous a fait rencontrer votre femme, à votre cousin qui m'a tellement à la fois fait rire et à la fois je me suis dit mon Dieu, comme comme il aurait peut-être besoin de discuter.
Oui, ben c'est ça, mais la parole, vous savez, c'est pas donné à tout le monde d'en avoir le privilège, hein, de l'usage. Et puis, c'est un peu ça aussi, c'est ce que je trouve qu'ils sont presque, ils sont frères, presque fusionnels, parce qu'il y en a un qui sait travailler la parole, mais qui est complètement aveugle à lui-même jusqu'à un certain point. Puis il y a un autre qui sent des choses, mais qui ne sait pas comment les dire.
Oui.
Donc, ils travaillent ensemble.
À travers l'histoire, j'avais presque envie de lui mettre des mots dans la bouche.
Ben écoutez, moi je suis ouvert aux propositions. Si vous voulez une licence pour écrire...
Un spin-off. C'était drôle parce que des moments, j'avais l'impression de sentir ce qu'il avait dans son cœur et puis la façon dont vous le décrivez très bien et c'était ça quoi. Et comme l'impossibilité d'ouvrir la bouche sur ce qui a vraiment une grosse importance chez lui. Mais en tout cas, c'est un bon roman. Alain, je sais alors que vous avez cours, alors vous détruisez un petit peu mon projet qui était le suivant. C'est que dans cette émission, vous tombez sur le jour où il y a toujours un chroniqueur ou une chroniqueuse. Et aujourd'hui, c'était le jour de la chroniqueuse qui est auteure-compositrice, autrice-compositrice-interprète, qui de chez elle se doit de créer une chanson en 30 minutes, donc le temps qui nous était imparti, pour faire une chanson sur ce que vous avez raconté. Et j'aurais voulu que vous soyez là pour l'entendre, mais si vous devez partir pour vos élèves, je le conçois, mais c'est parce que là, on faisait une coupure avec une chanson, puis on revenait après un petit peu plus tard. Alors, je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps à me consacrer ou pas.
Ben écoutez, si vous me dites que c'est une demi-heure, donc ça veut dire que c'est dans cinq minutes que... Ben,
c'est-à-dire que là, il va y avoir le temps d'une pause de deux minutes, puis une chanson, et puis après, on va revenir ensemble, et puis elle devrait avoir écrit sa chanson à 40 ou 45 au plus tard, vous seriez libre. Est-ce que ça va pour vous?
Ça va être dur pour moi, parce que vous savez, je suis chez mon éditeur, et puis je vais me rendre à l'université. Ceci dit... Bien, je veux vous remercier de m'avoir accueilli à votre émission. Et puis, est-ce qu'il y aurait un moyen pour moi de pouvoir prendre connaissance de...
Vous allez laisser à notre technicien votre adresse mail. Puis, on va se faire un plaisir de vous écrire pour vous en parler après.
Bon, ben,
parce que je suis sûre qu'elle aura pris grand plaisir à entendre tout ça. Elle allait nous le raconter. Donc, on vous fera passer la partie de cette émission. Et puis, je vous enverrai tout ça.
Avec grand plaisir.
D'accord.
Merci beaucoup, Madame Farah.
Parce que vous êtes le seul qui avait le droit de m'appeler Madame Farah.
Mais oui,
ça résonne et ça m'a tellement fait rire parce que quand j'ai reçu votre livre, quand on me dit d'abord je vous connaissais puisque vous collaborez à Plus on est de fou, plus on lit. Mais je savais pas que j'allais avoir le plaisir de discuter avec vous dans une émission qui s'appelle en plus Les Faramineux. Faut le savoir. Donc,
faisons-en si vous voulez une tradition pour quand j'aurai la force d'écrire un prochain livre.
Voilà, ben avec grand plaisir. Là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors là maintenant ben on va puisque Alain Farah est parti, donc je redonne le nom de son livre, 1000 secrets, 1000 dangers. Et puis on vous retrouve dans un instant. Après l'instant publicitaire, la chanson et après Noémie Chelariou. Trouve-moi une chanson.
Vous pouvez vous abonner. Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Yellow. Your skin.
Alors voilà, donc je me retrouve sans Alain Farah, mais en attendant Noémie Chelariou qui doit être en train d'écrire sur ce qu'elle a entendu et de nous faire une magnifique chanson selon son habitude. Donc en attendant, je vais discuter un petit peu avec Nicolas.
Oui.
Notre technicien, mon c'est technicien moi, du moment, oui c'est toi, puisque j'ai vu que tu écoutais avec intérêt l'entrevue, t'en as pensé quoi ? D'abord, tu as, autant te dire Nicolas, que d'abord félicitations, tu as assisté à la rencontre historique de Farah et Farah.
Eh bien oui, toute une rencontre.
C'était déjà pas mal là-dessus, donc on le répète, son roman ça s'appelle « Mille secrets, mille dangers ». J'ai envie de te demander un petit peu qu'est-ce que tu as retenu là-dessus et savoir quelle est la chose qui t'a touché dans l'entrevue ou qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh bien, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment étonné dans l'entrevue, c'est la relation de l'écrivain avec sa propre histoire. C'est,
oui.
On parle de personnages, mais en même temps, on parle de son point de vue, son expérience, donc... C'est un mélange de fictif et vrai, et c'est vraiment ça qui m'a...
Ah oui, puis dans le bouquin, vraiment, il ouvre beaucoup les vannes, il raconte beaucoup sur lui, donc c'est comme si on venait de faire sa connaissance, pas intime, mais presque, donc ce serait ça. Alors vraisemblablement, on a la chanson de Noémie qui arrive. Donc, on va en parler avec elle pour voir comment elle a vécu ce moment. Après, c'est ce que j'aime chez Noémie, c'est ça. C'est ce qu'elle entend, ce qu'elle interprète et comment elle le ressort. Et après, nous enverrons cette fonction cadeau à Alain Farah, bien sûr, pour « Mille secrets, mille dangers ». Est-ce que sa chanson fera partie des secrets ou est-ce qu'elle fera partie des dangers ? Est-ce que tu l'as là pour l'instant en ligne ou pas ?
J'essaie toujours de la joindre.
T'essayes de la joindre. On a reçu sa chanson ? Oui, on a reçu sa chanson ?
Oui, on a reçu sa chanson.
Oui, parfait. Donc, ça va être une bonne nouvelle. Alors, je te laisse l'appeler pour qu'on puisse discuter avec elle de ce qu'elle en a pensé. Alors, un petit moment musical pendant que tu l'appelles ? À tout de suite. Alors, nous voici avec Noémie. Allô, Noémie.
Allô, allô.
Bonjour,
Alain
d'abord.
Et Arlette.
Alors, bonjour Alain et Arlette. Alain a dû partir parce qu'il a ses élèves, mais il nous a donné ses coordonnées pour qu'on lui envoie ta chanson après lui avoir expliqué ce qui allait se passer parce qu'il avait un cours à McGill et il ne pouvait pas le rater pour nous. Voilà, donc on va en parler. Alors, tu vas me dire à moi ce que tu as pensé de l'entrevue, comment tu l'as trouvée et surtout comment tu l'as vécue, parce que c'est toujours surprenant la façon dont tu digères une entrevue et comment tu nous la restitues avec une merveilleuse chanson. Non, je te rassure, tu ne nous vomis pas cela, si c'est ce que, à quoi tu pensais. Tu nous fais cadeau de quelque chose de très joli. Vas-y. Alors,
écoutez, Arlette, si rapidement, je me suis rendu compte que j'ai eu l'impression que cet homme-là, Alain Farah, avait une histoire vraiment que...
On t'entend mal, Noémie. Je ne sais pas où tu es, mais il faudrait que on comprend mal ce que tu dis.
Je suis quasiment sur le top d'une montagne. Là, est-ce que c'est
d'accord.
Mieux?
là, c'est mieux, oui. Alors, vas-y.
Alors, je me suis rendu compte rapidement que je percevais Alain comme un homme qui avait une histoire vraiment plus diversifiée et colorée que la mienne au niveau de ses voyages, de ses origines. Puis, j'ai aimé ça, me laisser me sentir dépassée par cela. Ça m'a comme, ça me fait émerger là, un sentiment d'humilité.
Ah, d'accord.
Et j'ai trouvé très intéressant beaucoup de choses qu'il a mentionnées. Et là, c'est là que je vais... Est-ce que vous m'entendez mieux?
Oui, on t'entend parfaitement, okay. Là, vas-y.
Parfait. OK, à un certain moment, il parle qu'il découvre au creux de sa main un papier où il apprend quel est son vrai prénom.
Oui.
Et c'est ce moment-là qu'il met sur une piste pour découvrir quelles sont ses origines profondes.
En fait, il le sait, mais il ne savait pas qu'il avait été nommé autrement, puisque depuis très longtemps, le prénom d'Alain faisait partie de sa vie.
OK.
Depuis toujours.
Puis, c'est comme si, dans mon écoute, j'ai fait un lien avec bon, voilà, dans le prénom qu'on lui annonce, il reconnecte avec peut-être une partie de ses origines.
Oui.
Avec lesquels il avait moins connecté jusqu'à présent.
Oui.
Puis ça, ben, il va faire émerger plein de choses, comme par exemple de la honte en lui, des colères, jusqu'à temps qu'il chemine de ça.
D'accord.
C'est comme... et j'ai pris des petites notes sur le bord du...
En fait, tu lui as réécrit son roman, c'est ça?
Non, mais j'ai trouvé aussi plein de synchronicités vraiment intéressantes, comme par exemple le titre de son livre, « Mille secrets, mille dangers », mais la première chanson que vous avez fait jouer dans votre chronique aujourd'hui, c'est « Mille raisons ».
Oui, ben, c'était un petit clin d'œil avec le « mille », justement, oui, t'as raison.
Alors, j'ai beaucoup joué avec ça. D'ailleurs, le titre de la chanson, c'est « Mille histoires ». Fait que, c'est ça, « Mille secrets, mille chansons ». J'ai vraiment aimé aussi la partie où vous avez parlé de la signification de Farah.
Oui.
Je fais un clin d'œil à ça dans l'un de mes couplets.
Lui, il a une belle signification quand c'est avec un H, mais moi, c'est une souris, alors ça me tente moins. Mais
parce
bon.
Que t'aimes le fromage, Arlène.
C'est vrai aussi. Excellent. Mais on peut aussi le prendre comme une conjugaison du verbe sourire.
Ben oui.
Je vais le prendre comme ça. Je préfère.
Si, j'ai aimé. Moi, quand j'ai quitté votre moment, les derniers mots qu'il se disait, c'était que la haine, elle grandit et qu'elle est attente de solutions. Tu sais, en attente de solutions par rapport.
Pour la faire tomber, justement. Pour l'arrêter.
C'est ça, tu sais. Il disait, vous avez dit intimement la haine. Ça aussi, ça m'a donné. Ça m'a donné un élan pour écrire, pour continuer de constituer mon couplet. En très gros, là, rapidement, ce qui m'a envahi en écoutant M. Alain Farah, c'est wow, il est coloré de son histoire et de ses origines, cet homme-là. Je n'ai pas ça, moi, dans mon bagage personnel. Alors, j'ai eu à me sentir dépassée et à écrire avec l'histoire vraiment qu'il me prêtait à travers ses propos.
Ah ben après, tu es mitigé d'un tas d'autres choses, donc tu es mêlé d'un tas d'autres choses à offrir qu'il n'a pas, mais c'est bien parce que en le gardant...
En fait,
oui.
J'ai aimé ça, me sentir comme ça. Je me suis sentie comme envoyée ailleurs.
Oui, c'est ça. Et son bouquin qui est assez conséquent quand on le reçoit, quand on le voit... en même temps, il est facile à lire parce qu'il t'emmène en promenade sur le passé de son papa, sur son arrivée ici, sur lui, comment il a vécu son enfance, ce qu'il a vécu, puis quand il était... ce qu'on peut ne pas recevoir quand on est toujours dans un état de colère et qu'on en veut un petit peu au monde entier. Et puis en même temps avoir la passion de l'écriture, écrire, puisqu'il n'en est pas à son premier, il n'en est pas à son dernier non plus. Et puis celui-ci, c'était vraiment sur lui, c'est-à-dire qui est Alain Farah. Il a peut-être donné plus d'explications sur lui que n'en savent ceux qui travaillent avec lui, peut-être aussi. Peut-être pas les siens, oui, évidemment, puisqu'ils ont vécu avec lui, mais ceux qui travaillent avec lui. Alors, c'est toute une découverte. On écoute ta chanson, puis on revient tout de suite après.
OK.
Allez.
Mille secrets, mille dangers, mille raisons d'écrire. D'écrire son nom sur un roman où tout commence bien. Intimement, la haine coule comme un large fleuve. Yeah. Elle grandirait sans craindre les solutions toutes neuves. Ton histoire me raconte des bouts de ce qui fait le monde, et je me rends compte qu'humblement je ne sais rien. Ton histoire me raconte des bouts de ce qui fait le monde, et me rappelle que je tente à apprendre. Mille pays, mille visages, mille couleurs. toutes les colères que porte un enfant différent. La honte n'est pas un nombre que l'on tire au hasard. Elle est l'espoir que l'homme trouve en lui de l'or. Ton histoire me raconte des bouts de ce qui fait le monde. Et je me rends compte humblement que je ne sais rien. Ton histoire me raconte des bouts de ce qui fait le monde. Et me rappelle que je tente à apprendre. Et me rappelle qu'humblement je ne sais rien.
C'est très joli, vraiment. C'est comme si tu lui faisais une conversation en tête à tête.
Ben oui.
De son nom et de son histoire. Ça raconte, ta chanson racontait vraiment une histoire dans l'histoire.
C'est comme si, mettons, là, Arlette, c'est comme si j'arrivais pas à écrire sur l'histoire d'Alain.
Ah oui, oui, c'est tout à fait ça.
J'avais pas nécessairement de bagage réel pour m'en faire le témoin ou l'interprète. Puis c'est comme je disais avant qu'on écoute la chanson, la première émotion qui m'a envahie, c'est « Ah, accepte de ne pas avoir vécu la même chose que lui, puis écris à travers ceci. »
Et tu sais quoi, pour une fois, j'aime toutes tes chansons, mais je les vois arriver, je les entends, et celle-ci, j'aurais aimé qu'elle continue. Tu vois? Bon, continue à me raconter quelque chose, en tout cas.
Le petit refrain, là.
Ça ressemble à une musique de film.
Oui, ça, là, ça m'est apparu. Votre émission n'était pas encore commencée. J'avais ouvert la chaîne sur Internet, puis il était peut-être 15h53.
T'es drôle, parce qu'il y a toujours un morceau qui arrive à ton imagination, à ton imaginaire, avant que tu entendes, l'entrevue. C'est incroyable.
Mais j'avais comme un verre d'oreille. Puis je me dis, oh mon Dieu, ça serait le fun que j'arrive à... ça serait le fun que cette mélodie-là soit mon véhicule là, pour la chanson d'aujourd'hui. Mais tu sais, je laisse ça un peu latent comme ça. T'sais. Puis là, ben finalement, ben ça marche. Tu sais, le ton. On parle d'un livre. On parle d'un homme qui a beaucoup de bagages, de couleurs et tout ça. Puis là, je me dis, ben voilà, c'est le petit verre d'oreille que je ferais donner au début qui va me servir de refrain, je pense. Puis là, construit là-dessus.
Oui, parce qu'on n'a même pas parlé du Liban, puisque ses parents viennent du Liban. Enfin, il y a plein de choses hein, dans son livre. C'est pas en 20 minutes d'entrevue qu'on peut faire le tour de tout ce qu'il y a. Mais j'ai essayé de saisir, en tout cas, pour te restituer des moments qui, moi, m'avaient touché, voilà, que j'avais trouvé important. Et puis, pour voir ce que tu allais en faire. Donc, comme d'habitude, eh bien, c'est réussi. Écoute... voilà, je l'aurais même entendu encore plus longtemps. Donc, continuez à écrire cette histoire.
Ah, mais oui, mais pour vrai, j'aime profondément le... Il y a des choses que j'aime profondément dans cette chanson-là. Et c'est vrai que c'est une des chansons que je vais avoir le goût de retravailler, de continuer d'écrire davantage. Peut-être même, là, j'ai l'idée pendant que je le dis, mais de lire le roman d'Alain puis de voir si je pourrais continuer à créer en m'inspirant d'eux.
Ah, ben alors là... Il y a plein de choses qui te raviraient, qui en même temps te serreraient l'estomac, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vécues, mais qui sont là, qui existent, et c'est bien de les voir à travers son œil. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette interprétation. Tu vas me l'envoyer, je vais me faire un plaisir de lui transférer. pour lui donner des nouvelles, puisque après, en ayant su qu'il allait avoir une chanson à lui, il était désolé d'avoir à partir, mais les élèves attendaient, ce qu'on peut comprendre. Je l'avais pas prévenu, puisque quand tu es là, c'est toujours une surprise pour notre invité. Mais je crois qu'il va falloir que je trouve une solution pour dire rester un petit peu plus longtemps et que je trouve un truc à dire sans dire la vérité.
Mais en fait, du vin,
non. J'arriverai à trouver quelque chose pour mes prochains invités. Merci beaucoup, Noémie. Noémie Chélariou, qu'on peut suivre aussi sur sa page Facebook aussi. Voilà. Merci pour tout et puis à très bientôt.
Au plaisir.
Pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Au revoir, Noémie. Musique. Et voilà, on vient d'entendre Adèle qui nous chantait « Easy on me ». Nicolas, on arrive à la fin de cette émission. Alors, sur la minute qui nous reste, et demie qui reste, j'ai envie de te demander, parce que c'est la deuxième fois que tu entends Noémie créer une chanson, non? Ou c'est la première fois?
C'est ma deuxième.
C'est ta deuxième fois. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Elle est extraordinaire.
C'est fou, hein, ce qu'elle arrive à faire.
À chaque fois, moi, parce que moi, je me dis, non seulement elle écrit, mais elle met une partie musicale.
Oui.
Bien sûr... faut pas que tu te manques dans la chanson que tu fais. Elle fait des 1 minute et demie à 2 minutes. C'est un gros projet pour un peu de temps qu'elle fait. Là.
Ah, bah oui,
je suis
oui.
toujours impressionné. Là.
C'est ça, parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle part vraiment de zéro parce qu'elle sait absolument pas qui est l'invité. Donc, elle n'a même pas le loisir de faire une petite recherche avant. C'est no way.
Oui, même en tant que chroniqueur à la radio, moi, que j'ai fait des études justement en radio, on a une grosse préparation avant de faire une chronique de 1 minute. Et elle a fait une chanson de 2 minutes en moins de temps que nous on prend pour parler des Canadiens de Montréal.
C'est tout à fait ça, tu le dis très bien. D'ailleurs, Noémie Chelariou, que vous pouvez suivre si jamais ça vous intéresse, sur sa page Facebook. Et puis écoutez ce qu'elle a fait. Mais un jour, elle l'a promis, elle va faire un album avec tout ce qu'elle a créé ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, bah merci pour ta critique. Et merci à Noémie d'avoir été là. Merci beaucoup à Alain Farah pour son roman 1000 secrets, 1000 dangers. Comme je vous l'ai déjà dit, si jamais vous voulez m'écrire, Farah Arlette, mais Farah F-A-R-A, moi, farahharlette@gmail.com. Et puis on se retrouve demain pour une autre aventure. Merci à toutes et tous. Au revoir.